Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La situation s'aggrave beaucoup dans les territoires palestiniens. La colonisation s'amplifie chaque jour. Les regards sont tournés ailleurs. Un cri d'alarme de l'ex-député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick. Nous l'écouterons. La répression des manifestations se poursuit au Soudan. Deux manifestants ont été tués hier soir lors de nouveaux rassemblements contre le pouvoir militaire. Il y a 7 ans, le début des attentats de janvier 2015, la tuerie à Charlie Hebdo, l'attaque de l'hypercacher et la mort de 2 policiers. Ne jamais oublier la barbarie, c'est la France dans toutes ses composantes qui a été frappée, nous dira le député écologiste, coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, demain à 11h et 23h, sera Walid Ajar Rachedi. Il publie « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», un roman qui évoque notamment l'Afghanistan et le terrorisme, extrait dans votre journal. Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là? Et c'est co-signé Noël Mamère aux éditions Les Petits Matins. L'ancien candidat à la présidentielle, ancien maire de Bègles, sera l'invité de Pluriel à 19h et 23h ce vendredi. Vous l'entendrez dans cette édition. L'ex-député européen Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, demande une mobilisation internationale contre la détention administrative pratiquée par Israël. Une requête après que le détenu palestinien Hicham Abu Awash a mis un terme à sa grève de la faim. Ce palestinien, membre du djihad islamique, protestait contre sa détention administrative en Israël. Suite à un accord entre responsables israéliens et palestiniens, il sera libéré le 26 février prochain. Entretien avec Patrick Le Yarrick.
Il a mené un combat très difficile, puisqu'il était quand même à 2 doigts de s'éteindre. Donc c'est la situation qui lui a été faite tout au long de cette période a été totalement inhumaine, comme d'ailleurs la situation qui a été faite aux prisonniers palestiniens dans les geôles quand ils avaient fait la grève de la faim, où on les alimentait de force avec des piqûres. Mais effectivement, la détention administrative est totalement contraire au droit international, qui prévoit que pour chaque individu qui est aujourd'hui à qui on reproche quelque chose et qui est poursuivi, il y ait un procès. Or, là-bas, il y a non seulement la détention administrative, mais c'est l'armée qui fait les procès. Ce n'est pas une justice indépendante. Et donc, ceci est totalement contraire aujourd'hui aux droits qui s'appliquent aux pays qui ont signé la Charte des Nations Unies.
Et les détenus n'ont pas toujours connaissance des charges qui sont retenues contre eux?
Non seulement ils n'ont pas connaissance de la raison pour laquelle ils sont détenus, ça c'est en général la situation qui leur est faite, ça dure des mois et des mois. Imaginez que des enfants aujourd'hui de moins de 17 ans, de moins de 16 ans sont aujourd'hui mis en prison. Ils n'ont évidemment ni eux ni leur famille connaissance des raisons pour lesquelles qu'on les enferme. Donc les avocats n'ont pas accès au dossier et quelquefois ils n'ont même pas accès aux visites. Par exemple, Fadwa Barghouti n'a pas accès, alors qu'elle est à la fois la femme de Marwan et son avocate, elle n'a pas accès à lui de manière régulière. Donc c'est une anomalie et ça s'inscrit dans le processus aujourd'hui qui se poursuit malheureusement avec le nouveau gouvernement israélien de colonisation et d'expulsion des populations qui sont aujourd'hui en terre palestinienne.
Sur cette question de la détention administrative, vous demandez aujourd'hui une mobilisation internationale. C'est aussi ce que vous demandiez lorsque vous étiez député européen.
Ben, effectivement, il faudrait que à la fois les parlements nationaux, les associations qui le font déjà, les partis progressistes, mais même les partis démocratiques au-delà du mot progressiste, mènent une bataille contre ce système de détention qui est totalement injustifié, inadmissible, illégal.
Et comment vous comprenez l'absence de réelle mobilisation internationale aujourd'hui?
Vous savez, personnellement, je suis très préoccupé et très meurtri par ce qui est en train de se passer, parce que la situation s'aggrave beaucoup. et elle s'aggrave beaucoup parce qu'effectivement, il n'y a pas de mobilisation parce que les regards sont tournés ailleurs. Il y a eu tout ce qui s'est passé en Syrie, Yémen, en Libye, tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la polarisation, c'est une polarisation États-Unis, Chine, Russie. Et donc, dans cette carte géopolitique un peu nouvelle, les Palestiniens, comme d'autres peuples, sont aujourd'hui totalement délaissés. Or, pendant qu'ils sont ainsi délaissés, eh bien, la colonisation, elle s'amplifie chaque jour et les met de plus en plus en difficulté. Et même, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, peut-être met en cause la possibilité de faire un État palestinien. On est aujourd'hui à un point de rupture extrêmement inquiétant et il serait bien, nous l'appelons de nos voeux en tout cas, qu'une remobilisation puisse se faire pour alerter sur la situation là-bas et sur le bafouement perpétuel du droit international par les autorités israéliennes.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, ancien député européen. 8 Palestiniens ont été tués dans une collision entre un camion et un minibus. C'est arrivé en Cisjordanie occupée. Le président Mahmoud Abbas a décrété une journée de deuil ce vendredi à travers la Palestine en hommage aux victimes. La répression des manifestations se poursuit au Soudan. 2 manifestants ont été tués hier lors de nouveaux rassemblements contre le pouvoir militaire. Une annonce du comité central des médecins au Soudan. Près d'une 60aine de personnes sont morte dans la répression des rassemblements depuis le coup d'État du général Abdel Fattah Burhan le 25 octobre dernier. L'inquiétude des professionnels du tourisme au Maroc face à la fermeture des frontières. Environ 200 professionnels représentant des agences de voyage ont manifesté cette semaine devant le siège du ministère du Tourisme. Ils demandent des mesures de soutien à leurs activités et une réouverture des frontières. Tous les vols de passagers de et vers le Maroc sont suspendus depuis le 29 novembre et au moins jusqu'au 31 janvier en raison de la flambée du variant Omicron dans le monde. Cela fait 7 ans aujourd'hui, le début des attentats de janvier 2015, des attaques survenues entre le 7 et le 9 janvier 2015 à Paris. Elles ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, des policiers, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, et des clients de l'Hypercacher à Paris. Des attaques au cours desquelles 17 personnes ont été tuées. 7 ans après ces attentats, il ne faut jamais oublier, nous dit le député écologiste, coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert.
Ne jamais oublier. La barbarie qui nous a enlevé des hommes, des femmes, parce que pour certains, il était insupportable une certaine idée de vivre ensemble, dans nos différences, dans nos cultures, dans notre impertinence, n'était pas acceptable au point qu'ils leur ont retiré la vie. Au moment où des tensions se font dans le monde entier, où chacun se replie, moi, je rappelle que la plus belle force de l'humanité, c'est quand elle se regarde dans ses différences et dans sa fraternité.
C'est la France qui a été touchée en plein cœur, la France et l'ensemble des composantes de sa population.
Tout à fait, c'est la France dans toutes ses composantes. Il n'y a pas une partie particulière de la France qui ne doit pas se sentir concernée par ces attaques de personnes qui ont une toute autre idée du vivre ensemble, c'est-à-dire l'idée qu'on doit se renfermer, se refermer, c'est être étriqué, que l'on ne peut pas être créatif, impertinent, je l'ai dit. Cette impertinence, elle peut nous faire mal, mais aussi elle fait depuis toujours partie de l'histoire de l'humanité, quelle que soit sa confession ou pas sa confession, quelles que soient ses origines, l'impertinence. Celle qui est dans une forme de bienveillance et dans une idée de fraternité. Je te montre que j'ose des choses, mais ce n'est pas contre toi, c'est juste pour te dire, regarde-moi, pas parce que je suis ton miroir ou ton clone, mais parce que je suis moi, et moi je te regarde parce que tu es toi. Et c'est ça qu'il faut qu'on nous retrouvions, de regarder l'autre parce qu'il est et non pas parce que nous voudrions qu'il soit, et que l'autre nous regarde parce que nous, ce que nous sommes et non pas parce qu'il voudrait ce que nous soyons.
Le député écologiste, coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, demain à 11h et 23h, sera Walid Ajar Rachedi. Il publie « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», un premier roman publié aux éditions Emmanuel Colas, rediffusion dimanche à 19h, un roman qui évoque notamment l'Afghanistan et le terrorisme. Walid Ajar Rachedi.
Je pense qu'on a tous été très marqués en 2015 par les attentats qui ont eu lieu sur les Hebdo, à l'Hypercacher, puis au Bataclan. Moi, dans mon cas, bon, ce sont des quartiers que je connais très bien parce que je travaillais à l'époque dans le 11e et jusqu'à pas très longtemps j'habitais dans le quartier. Et c'est vrai que voilà, en étant qui je suis, bah, j'avais à la fois des gens que je connaissais parmi des victimes, en tout cas parmi des amis des victimes, en tout cas c'est des lieux de vie dans lesquels on était touchés de plein fouet. Et puis voilà, parmi les auteurs des attentats, notamment un jeune homme qui était de Bévry-Beaucouronne où j'ai grandi. Et voilà, sans forcément avoir envie directement de parler de ça, en tout cas, ce que je voyais bien, c'est qu'on était dans une histoire qui était très locale et qui en même temps dépendait d'enjeux géopolitiques beaucoup plus grands. Parce qu'en vrai, voilà, ces actes-là ont lieu en France, mais en vérité, sont le fruit de événements géopolitiques majeurs beaucoup plus grands et qui nous dépassent. Et en fait, ce qui m'intéressait de raconter à travers l'histoire de ces personnages qui se passent dans les années 2000, bah, c'était de raconter ça à travers effectivement l'histoire de l'Afghanistan. Alors pourquoi je parle de l'Afghanistan? Parce que voilà, c'est un pays qui a une culture qui est magnifique, c'est le pays de Rumi, c'est le pays de grands poètes, et c'est vrai que c'est un pays qui, successivement, à travers la conquête britannique, puis l'invasion russe, puis les Américains, a été constamment volé de son destin. Et en fait, voilà, c'est une matière romanesque qui est très riche, et je pense que c'est le symbole de beaucoup de choses et de beaucoup d'affrontements entre guillemets l'Orient et l'Occident. Et puis voilà, c'était aussi à travers ces personnages jumeaux, cette idée voilà de personnes voilà qui sont de jeunes gens qui rêvent comme tout autre, l'un rêve d'être footballeur, l'autre rêve de travailler dans les médias, et qui sont volés de leur destin par des événements qui les dépassent.
Et puis, il y a cette humanitaire qui passe sa vie à voyager et qui, finalement, vit un choc en Afghanistan.
En fait, avec Jeffrey, ce qu'il faut avoir en tête avec cette humanitaire, donc, qui est choquée à son retour d'Afghanistan, c'est que je pense qu'il correspond à un certain nombre de personnes voilà, qui viennent du monde occidental dans ces pays-là avec l'idée au départ de bien faire et qui, comme nous tous, peut-être, je ne sais pas, quand il y a eu la guerre en Irak en 2003, c'était de se dire bah quand Saddam Hussein partira, le pays sera meilleur. Ou là, on le voit avec le retour des talibans en Afghanistan, l'occupation américaine pendant un certain nombre d'années, on s'est dit bah finalement ça va vers un mieux et tout. Il y a sûrement des effets très positifs, mais en fait c'est un personnage qui après coup se rend compte que pareil, en fait il est prisonnier d'enjeux qui le dépassent, qui sont beaucoup plus grands, qui dépassent son action. Et en fait Jeffrey c'est un peu une sorte de symbole de l'Occident qui croyait bien faire et puis qui se retrouve en fait face à une forme de désillusion et aussi incapable du coup de s'en relever, de se remettre en cause, et ça va le conduire à une issue assez tragique que je ne dévoilerai pas.
Walid Ajar Rachedi, il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient. Demain à 11h et 23h, il publie « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», roman publié aux éditions Emmanuel Colas. Le nouveau protocole sanitaire à l'école pour faire face à la propagation du variant Omicron évolue. Le gouvernement l'a allégé. Les élèves n'auront plus à recommencer le parcours de 3 tests si un nouveau cas positif dans leur classe apparaît dans un délai inférieur à 7 jours. Idem pour les élèves du secondaire âgés de 12 ans et plus, se justifiant d'une vaccination complète. Les élèves non vaccinés doivent eux rester isolés pendant 7 jours. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Noël Mamère, ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien maire de Bègles, auteur avec Patrick Farbias du livre Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là, aux éditions Les Petits Matins. Noël Mamère.
Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des médias et de l'opinion ne contextualise pas la montée de Zemmour. C'est-à-dire on fait comme si c'était une génération spontanée, comme s'il était arrivé là selon les circonstances. Non, tous les événements historiques s'expliquent, et ils s'expliquent par l'histoire et par ce qui nous a précédé. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs dans notre livre avec Patrick Farbias. Nous avons regardé tout ce qui s'est passé depuis les premières révolutions conservatrices, je pense en particulier à celle de ces intellectuels sous la République de Weimar, qui posaient les bases d'une certaine manière de ce qui est devenu le nazisme. Mais ça a été aussi la révolution conservatrice de Reagan, puis celle de Thatcher, puis celle de Trump. Et donc, il faut bien expliquer que Zemmour, il n'est en fait que l'incarnation de ce mouvement qui est né il y a déjà pas mal de temps. Alors il arrive d'une certaine manière avec habileté à synthétiser cette ces courants de pensée qui ont donné des sociétés invivables et des sociétés qui sont à condamner, bien évidemment, qui ont donné le pire du pire de notre histoire. Et il faut bien considérer que nous n'avons pas affaire à une sorte de clown médiatique qui serait sorti de son écran, de sa télé, pour venir dans la société. Non, non, il n'est pas tout seul. Il est suivi par une certaine partie de la bourgeoisie et du capitalisme. Je pense en particulier à Bolloré, dont il sert aussi les intérêts. Donc, pour regarder l'histoire, et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les dictateurs qui sont arrivés au pouvoir pour mener des politiques infâmes, ils étaient aussi suivis par une partie de la bourgeoisie et soutenus par elle et financés par elle.
Noël Mamère, ancien maire de Bègles, ancien candidat à l'élection présidentielle, il publie avec Patrice Farbiaz le cas Zemmour. Comment en est-on arrivé là, aux éditions Les Petits Matins? Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. Le coup d'envoi dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations, cela va durer un mois au Cameroun. L'Algérie, tenante du titre, affiche une série de 33 matchs sans défaite. La compétition débutera à 17h par une rencontre Cameroun-Burkina Faso. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.